Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h11 et c'est RMC, c'est le week-end des experts et après le jardin. Et avant de retrouver tout à l'heure la forme et la santé avec Christian Ricard, avec Christian tout à l'heure on évoquera le Nutri-Score. Vous savez, ce petit indicateur qu'il y a maintenant sur certains emballages et qui évoque la qualité nutritionnelle des aliments. Eh bien, on évoquera cela en compagnie de Christian Ricard, mais aussi de Raphaël Grabli qui sera avec nous, car il existe aujourd'hui des applis qui nous indiquent véritablement la qualité nutritionnelle des produits qu'on achète. Donc tout à l'heure entre 8 et 9 et bien sûr vos questions au 32-16. Mais dans l'immédiat donc, il est à mes côtés, Christian Pessé.
Mais oui, je suis là, bonjour mon cher François.
Christian, nous allons aller dans la salle de bain aujourd'hui.
Bah, c'est normal à ce sorcier. Hein.
Oui, c'est vrai.
Bah, oui,
Une bonne douche, ça fait du bien. On évoquera aussi, l'eau dans la salle de bain qui est quand même une composante légèrement importante.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui évolue de façon considérable. On va voir que je le disais tout à l'heure avant l'émission, on va réinventer l'eau chaude.
On va réinventer l'eau chaude. Comment économiser l'eau, la chauffer, l'utiliser confortablement? On en parlera avec notre invité. On trouvera aussi votre coup de gueule tout à l'heure, bien sûr, hein, Christian.
Ah oui, et là, puis, ça va mal.
Ça va mal?
Ça va mal.
Ça va très très mal.
Très très mal.
Qu'est-ce qui vous arrive?
L'ANA est en train de... L'ANA, vous savez, c'est l'Agence nationale de l'habitat, est en train de couper les aides de façon inattendue, impromptue, avant la fin de l'année. On s'attendait à des coups de rabot au mois de fin décembre, début janvier. Mais là, c'est pas le rabot, c'est la défonceuse.
Aïe, 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 oui. Aïe, aïe.
Ça grince.
L'ANA n'est pas contente.
Non, bah, c'est pas l'ANA, c'est surtout les professionnels et puis les particuliers.
Bien sûr.
Qui ne sont pas contents.
Là, il n'y a plus de sous dans les caisses, mon cher Christian. Vous savez bien.
Gouverner, c'est prévoir. Hein.
Gouverner, c'est prévoir, n'est-ce dit pas Christian Pessé, notre président Christian.
Oui.
Bon, et puis bien sûr, je le dis à tout moment, vous pouvez nous joindre au 32-16 ou via l'appli RMC et Direct Studio. On va parler aussi de sèche-serviette dans quelques instants.
Oui.
Comment bien les choisir et les installer dans la salle de bain. Merci d'être là. C'est parti pour votre maison. Et nous commençons avec Serge. Bonjour Serge.
Bonjour François. Bonjour Christian.
Welcome.
Merci
Serge.
D'avoir pris ma question.
Oui.
Bien aimable à vous.
Et on vous écoute.
Oui, donc j'ai une résidence secondaire dans le Loiret.
Oui.
Et j'ai constaté des lézardes périmétriques au niveau du premier étage, entre le plancher et les murs extérieurs.
Oui.
Une lézarde qui peut aller de 1 à 2 cm.
Ah oui.
Sur toute la périphérie du premier étage.
Oui.
Et donc, suite à ça, j'ai fait venir une entreprise de maçonnerie qui m'a recommandé de poser ce qu'ils appellent des arcs boutants avec des croix sur les façades et sur les murs de côté. Comme j'ai une maison qui est mitoyenne, je suis obligé de demander l'autorisation aux voisins de poser ce genre d'accessoire qui est fait d'une grosse tige d'acier et verrouillé par des fer-plats sur les extérieurs des murs.
Oui.
Vous voyez ? Voilà, donc les solutions qui me sont proposées, je ne sais pas si ça y a péri dans la demeure.
Oui.
En fait, j'ai appris aussi qu'au niveau de la mairie, il y avait eu la reconnaissance de catastrophe naturelle. Mais malheureusement, moi j'ai appelé plusieurs fois la mairie et ils ne m'ont jamais dit que j'avais le droit de faire une déclaration de sinistre.
C'était pas le droit, c'était devoir que vous aviez. C'est-à-dire que... Alors, il faudrait voir si la mairie a bien fait la publicité. Donc, on est dans un phénomène...
Pas trop, non, à mon avis, hein, parce que j'ai la maison depuis 1990... Bon, cette lézarde ne doit pas dater d'hier, c'est certain.
Ouais.
Mais je suis pas le seul parce que d'autres voisins l'ont. Mais ce qui est bizarre, c'est sur la même longère, il y a trois maisons.
Ouais.
Moi, je suis la dernière de la longueur.
Ouais.
Et les autres voisins n'ont pas ce problème.
Ah oui. Alors donc, vous êtes victime du phénomène de gonflement retrait des argiles.
Oui.
On comprend bien comment ça se passe. Hein. Il pleut, les sols gonflent. Il fait très sec, ils rétrignent. Oui. Et donc les maisons ne suivent pas, enfin la maçonnerie ne suit pas. Donc quand le phénomène se produit, il y a effectivement la possibilité pour la mairie de demander un classement en état de catastrophe naturelle qui ouvre à ce moment-là automatiquement pour vous la possibilité d'être indemnisé par votre assurance.
Oui, il y a une participation pour les travaux
Voilà, la problématique qu'il y a, c'est que entre le moment où il y a le classement et le moment où vous faites votre déclaration, il y a une semaine. Donc c'est complètement.
Oui, c'est ça. Et puis c'est clôturé. Enfin, on peut plus faire la déclaration. Il y a, voilà. Y a un délai.
Bon. Ouais. Alors ceci étant, il y a sûrement des recours à faire si la publicité par la ville n'a pas été faite correctement. Alors ceci étant, tout ça, ça ne se bricole pas et c'est certainement pas les solutions qui viennent d'être évoquées, que vous venez d'être évoquées, qui vont résoudre votre problème. Parce d'accord. que de toute façon, le sol, il va risquer de continuer à bouger et oui. Les seules véritables solutions, c'est d'une part, alors on peut travailler sur le ceinturage effectivement haut de la maison, ce qu'on appelle le chaînage. Hein, mais c'est pas seulement du chaînage transversal, c'est tout l'ensemble qui doit être bouclé.
Excusez-moi Christian, mais il y a aussi un point qu'ils m'avaient signalé. Ils envisagent de poser un cadre périmétrique en fer plat.
Voilà. Donc ça, c'est
tout autour du premier étage.
Voilà. Donc ça, c'est indispensable. Et on va resserrer un petit peu, comme ce que je fais, le petit bout de fil de fer qui est au niveau d'une bouteille de champagne. Vous savez bien que si on resserre, ça va effectivement rentrer dans le liège. Donc ouais. C'est cette solution qui est possible.
Oui.
Mais aussi le renforcement des fondations. Et là, il y a deux solutions pratiquées. Ce sont ce qu'on appelle des micro-pieux en béton, c'est-à-dire qu'on va faire des trous, on va ferrailler, on va envoyer du béton en profondeur sur plusieurs mètres, et donc on va ensuite tenir l'ensemble de la maison. Alors, il y a une autre solution, ce sont les résines. C'est la solution injection de résine sous la maison, et qui là présente aussi l'avantage parfois de faire remonter véritablement le terrain de quelques centimètres, et ça suffit pour refermer la maison, si vous voulez, refermer la boîte qui est en train de s'ouvrir. Donc c'est la solution aujourd'hui, je vais dire, qui a un peu le vent en poupe, parce qu'elle est simple en même temps. On arrive, les gars, ils font des trous, paf, ils injectent de la résine.
Oui, dans un cas, ils injectent du béton, dans un cas, ils injectent de la résine.
Oui, mais ils injectent de la résine sur l'ensemble de la surface de la maison, alors que les micropieux, c'est simplement donc des espèces de colonnes.
Comment ils procèdent pour injecter ce produit sur toute la périmétrie?
Ils font des trous dans le sol du rez-de-chaussée, puis tout partout, et ils injectent.
Donc mais voilà. Les fondations sont peut-être un petit peu loin, parce que c'est une vieille maison qui date de 1900, et les murs sont en pierre, ils font à peu près 50
centimètres d'épaisseur. Ils savent faire. Il y a Uretech notamment qui est très spécialisé là-dedans. Bon, moi, j'ai pas d'autre solution à vous proposer, mais j'avais vu dans ce que vous nous aviez envoyé, puisque vous nous avez envoyé un mail, que vous envisagiez en plus de vendre votre maison.
Oui, depuis 8 ans, j'essaye de vendre désespérément cette maison.
Alors attention.
C'est pas à cause du vice de ce.
Oui, mais alors justement, attention de ne pas prendre des solutions qui auraient pour conséquence de masquer le vice. Parce que vous seriez ensuite.
Une annulation de ma vente.
Oui, ou tout au moins une réduction de
même
prix.
C'est pareil, il faut aussi que je mette en conformité les évacuations. Mmh. Et il y en a pour entre 6 et 8 000 euros.
Ouais. Ça m'étonne pas.
C'est une grosse erreur que j'ai faite.
Eh oui.
Merci Serge.
Merci
en tout
Serge.
Cas pour votre appel. Il est 7h19 sur RMC. Si tout comme Serge, vous voulez joindre Christian PC, profitez-en. C'est au 3216 que ça se passe. C'est le standard. Ou alors, si vous avez votre smartphone, via l'appli RMC et Direct Studio.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Attention.
De Christian PC.
Je crois qu'on s'est pris un sèche-serviette sur la tête, Christian. Ça fait mal.
Oui.
Bien choisir le sèche-serviette dans la salle de bain et surtout bien l'installer, c'est le conseil de l'expert de ce samedi.
Eh oui, les sèches-serviettes, c'est avant tout prévu pour sécher les serviettes.
Hein. Oui,
ça va.
Mais ça
peut aussi chauffer.
Eh oui.
Voilà. Donc alors c'est un très bon confort d'abord parce qu'il n'y a rien de mieux que de sortir de sa douche et puis d'avoir une serviette qui est bien chaude. Là, c'est du confort.
Ça vous plaît, hein?
J'aime bien
votre peignoir molletonné.
Mais bien chaud. En fait, l'objectif c'est quand même de quelque part surchauffer la salle de bain, hein, parce que évidemment, la maison est à 19-20 degrés, il va falloir chauffer davantage la salle de bain.
Bien sûr.
Alors il y en a donc différents systèmes de chauffe qui vont. C'est un peu comparable au radiateur électrique, si vous voulez. Il y en a avec un cœur de chauffe, il y en a avec qui sont rayonnants. Il y en a avec du liquide caloporteur, c'est-à-dire en gros de l'huile à l'intérieur, et ça se rapproche beaucoup à ce moment-là du radiateur de chauffage central. Et puis il existe aussi des sèches-serviettes mixtes, c'est-à-dire qui peuvent être accordées au chauffage central. C'est-à-dire que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la période de chauffe, eh bien c'est l'eau du chauffage central, le liquide caloporteur comme on dit en technique, qui va donc alimenter votre sèche-serviette, mais on sait bien qu'en demi-saison, vous allez avoir coupé votre chauffage central et vous allez être bien content de pouvoir avoir quand même un sèche-serviette dans la salle de bain qui va réchauffer l'atmosphère à un moment où il fait un peu frisquet. Alors là, c'est de l'électricité, c'est effectivement une résistance qui vient en complément avec en plus une soufflante.
Une soufflante, hein. Oui, parce que j'ai peur quand vous me dites
voilà,
ça.
Voilà, non, mais
vous avez vu Guillaume Gomis qui s'est installé à côté pour la météo.
Tout de suite,
on s'en va.
Eu peur.
Il a un peu peur.
Une soufflerie qui elle-même est associée à une résistance qui permet de faire monter la température. Alors, côté puissance, on considère, vous savez, que dans une maison, il faut à peu près 100 watts par mètre carré. C'est un principe tout bête. Bah là, il va plutôt falloir 130, 150 watts. Donc, il va falloir un appareil un peu puissant. Alors, tout ça, ça bénéficie effectivement de régulation thermostatique de plus en plus fine. Même, ça peut être connecté. Vous pouvez, vous êtes en bas, pop, vous mettez sur votre téléphone, vous envoyez la salle de bain. Bon, je suis pas sûr que ce soit d'une efficacité, enfin, d'un intérêt majeur, mais enfin, ça peut être sympa.
Quand on se lève et qu'on sait qu'on va prendre un café avant de se doucher, par exemple, voilà, on appuie sur le bouton, ça commence à chauffer.
Ça vous évite de faire les 3 mètres pour aller le brancher, quoi.
Non, mais que la température, qui monte en température avant qu'on arrive dans la chambre.
Tout à fait. C'est ça. Bon, mais ça peut être aussi programmé, hein. Il y a aussi un moyen de programmation. Côté installation, je ne vais pas développer les zones de la salle de bain. Je vais y revenir dans une prochaine émission parce que ça a évolué. C'est très important. Simplement, ce qu'il faut dire, si on veut le faire soi-même, parce qu'il n'y a que l'installation des sèches-serviettes électriques, hein, qu'on peut faire soi-même. On ne va pas bricoler l'installation de chauffage central pour mettre un sèche-serviette mixte. Alors, respect de la norme NFC 1500, je ne cesse de le répéter. Une ligne protégée par disjoncteur différentiel 20 ampères en moyenne, et puis des conducteurs de 2,5 mm carrés. En principe, ça suffit pour ce type de matériel, et puis un raccordement à la terre, sauf si on est avec un radiateur à double isolation.
Christian, merci pour ces détails. On va rester dans la salle de bain dans quelques instants. Ça sera notre dossier de ce samedi matin. On va parler de l'eau dans la salle de bain. Comment économiser l'eau, la chauffer, l'utiliser confortablement. On en parlera avec notre invité Hubert Maître. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions. Tiens, la salle de bain, est-ce que vous avez envie de la changer? Est-ce que vous avez envie peut-être de la modifier? Vous voulez améliorer son confort? N'hésitez pas, 3216, l'appli RMC Direct Studio, avec votre numéro de téléphone. On revient dans un instant après la météo.
RMC,
jusqu'à 8h.
Allez, coupez-le.
Votre maison.
Alors ça va vous coûter cher.
François Sorel.
Christian Pessé.
Il faut couper l'eau là, parce que ça commence vraiment.
C'est préférable.
À fuiter.
Ouais.
Christian Pessé, il est 7h30, direction la salle de bain pour justement évoquer le fait d'économiser l'eau, la chauffer, l'utiliser avec notre invité.
Oui, tout à fait. Nous sommes avec Hubert Maître. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'AFISB, c'est-à-dire l'Association des industriels de la salle de bain.
Les fabricants.
Les fabricants, globalement. Vous avez un site super, c'est salledebain.fr, je le dis tout de suite, parce que c'est vraiment...
C'est bien.
C'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup beaucoup de choses.
Notamment les conseils de pose qui constituent les règles de l'art et qui servent aux documents techniques unifiés des DTU.
Voilà, les fameux DTU que je cite
salledebain.fr.
Salle de bain, c'est tout bête.
Voilà. C'est bien. Au moins,
c'est salle de bain au singulier ou au pluriel, salle de bain?
Salle de bain, mais il y a un S à bain à l'ancienne.
Oui, mais c'est normal, c'est la grammaire. Je ne fais que là aussi me battre sur la disparition du S à salle de bain. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a parlé comme ça. Salle de douche, il n'y a pas d'S. En français, salle de bain, il y a un S.
Il y a un S, d'accord.
Salle de douche, bon, allez comprendre. Ce sont les mystères de la langue française. Alors bon, on ne va pas faire ce matin Maître Capello. Hein, on va donc parler de l'eau chaude dans la salle de bain. Ça m'a semblé très important de parler de cela parce que on parle beaucoup des équipements de la salle de bain, de la déco, tout ça, mais finalement on oublie un peu l'essentiel qui est quand même la question de l'eau chaude. Alors avec différents différents axes, l'économie, comment la chauffer, etc. Alors on va commencer par l'économie. Quels sont les moyens les plus simples, les plus basiques pour économiser l'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau, il y a le prix de l'eau, mais il y a aussi donc le prix que coûte son chauffage. C'est quoi les moyens les plus basiques pour économiser tout cela?
Il y a deux choses. Il y a le choix des produits, et on va le voir, il y a des possibilités de choix de consommateurs. Il y a les usages, évidemment. Si on parle de la douche, est-ce qu'on parle d'une douche fonctionnelle ou d'une douche confort? Dans une famille de 4 ou 5 personnes, celui qui paye prend plutôt des douches fonctionnelles, et celui qui ne paye pas prend plutôt des douches de confort.
D'accord. Alors, il y avait des petits moyens, il y a toujours des petits moyens d'économiser. Par exemple, le mousseur avec de l'oxygène.
Qui rajoute de l'air
dans l'eau. Le stop douche qui s'arrête la douche automatiquement. Ça marche encore, ça, ou
oui. Écoutez,
est-ce que c'est très efficace?
Je dirais que il faut un petit peu de bon sens. La première des choses, c'est de connaître le débit de sa douchette de tête.
Oui. Personne ne se connaît ça.
Si c'est une très grande douchette, très très large, une grande surface, vous avez de l'eau qui tombe à côté. Donc évidemment, le savon et le shampoing ne vont pas partir. Il va y avoir du gaspillage d'eau. Donc la première des choses pour économiser l'eau, c'est que le savon et le shampoing s'en aillent. Après, on peut arrêter. Si vous réduisez le débit, vous allez simplement prendre des douches plus longues.
D'accord. Donc ça revient au même finalement, on consommera autant d'eau.
Oui, si la surface, si le débit de la douchette est raisonnable.
Voilà. C'est quoi la durée d'une bonne douche?
Oui, c'est quoi ça? Quelques minutes.
Vous avez étudié ça ou pas? Auprès des utilisateurs.
Chacun a son expérience.
Oui, c'est vrai.
Mais la douche fonctionnelle, si vous vous levez à 5 heures tous les matins, peut-être que ça vous est arrivé ce matin.
Ça nous arrive de temps en temps, oui.
Eh bien, vous allez assez vite.
Paradoxalement, moi j'aime bien prendre mon temps parce que ça me réveille aussi.
Ouais. Alors,
voilà, tout dépend.
Vous êtes plutôt dans la douche de confort.
Je suis plutôt dans la douche de confort, oui.
On avait vu apparaître il y a quelque temps des douches à recyclage d'eau.
Oula.
Ça existe encore, ça? Ça paraissait un petit peu fou, quoi.
Si vous voulez, des innovations et des inventions, il y en a beaucoup.
Oui,
après, il faut qu'elles aient leur vie économique et leur justification économique. Il y a des tas de choses que l'on peut faire collectivement dans des nouveaux ensembles d'immeubles et des choses au niveau d'un foyer. Là, c'est plus limité. Mais il y a quand même une palette de choses possibles.
Alors, on en vient justement. Vous êtes en train de nous dire que finalement, les économies d'eau sont relativement limitées. Si, la chasse d'eau, parce que c'est parallèle à la salle de bain, là, il y a quand même toutes les cuvettes à double détente, si j'ose dire.
Non, les économies d'eau, on peut les faire presque partout. Le fait de choisir une douche plutôt qu'un bain, c'est déjà une première économie. Aujourd'hui, il y a des produits hybrides qui sont bain-douche, et donc vous n'avez pas à choisir entre le bain et la douche. Pourquoi? Parce que si on prend beaucoup plus de douches, en revanche, on veut toujours, et notamment nos compagnes, prendre un bain par semaine ou deux.
Alors, justement, c'est une bonne question, cher Hubert et cher Christian. La question de Crinette qui nous dit, je dois refaire ma salle de bain, mais j'hésite entre une douche à l'italienne et garder la baignoire. En cas de revente de mon appartement, est-ce qu'une baignoire est un plus pour les familles?
Oui, incontestablement. Dans la construction neuve, si on construit toujours autant, on vend toujours autant de baignoires. Ce qui a changé, c'est la fréquence d'utilisation de la baignoire en tant que bain. Et donc, on a des produits hybrides aujourd'hui qui vous permettent de ne pas avoir à choisir entre l'un ou l'autre.
L'idéal, c'est d'avoir une salle de bain assez grande pour avoir les deux, non?
Oui, alors c'est surtout d'avoir deux
salle de bain, d'accord. Alors, oui. Une salle de bain avec baignoire.
Bon, alors c'est bien que ça suppose quand même d'avoir un peu de mètres carrés. À Paris, c'est un peu plus difficile.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que, ou en tout cas, quand on fait construire, c'est quand même la solution.
Pour répondre à Crinette, donc, vaut mieux malgré tout avoir une baignoire si, dans la perspective de revendre notre bien.
Oui, c'est plébiscité en général.
D'accord.
D'abord, c'est indispensable pour les enfants, c'est vrai. Mais même si la fréquence a baissé, on veut prendre des bains.
Ouais. Mais attention quand même, quand on est un peu âgé, lorsqu'on a une mobilité réduite, là, on va
supprimer la
baignoire pour passer à une douche souvent de grande dimension, c'est-à-dire qui correspond à la surface de la baignoire.
Tout à fait. En rénovation, c'est une tendance de fond. Et même dans les années difficiles qu'on vient de traverser, jusqu'en 2015, la douche a toujours été en croissance. D'accord. Du fait de la rénovation.
Chauffage de l'eau. Moi, j'ai l'impression qu'on a souvent eu de l'eau qui fait beaucoup trop chaude. Non, c'est quoi la bonne température? Il y a une température légale, c'est 55, hein, 55 degrés maximum, voilà. aux sorties du robinet ou de la douche.
Voilà, là, il y a une source d'économie importante d'eau et d'énergie primaire pour chauffer l'eau. Et là, on peut dire qu'en tant que consommateur, on est très mal informé. Savez-vous combien vous coûte la production d'eau chaude chaque année chez vous? Eh bien, on n'en sait rien.
Non, alors, on n'en sait rien.
Je sais que c'est évalué à... En fait, ce n'est pas aussi important que ça. Hein. Je crois que c'est,
non.
C'est de l'ordre de sur une famille de deux personnes, de 150-300 euros. Et voilà. Puis 450 sur une voilà. famille un c'est, peu plus de quatre personnes.
Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais il y a une source d'économie importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise plus l'eau chaude que dans la salle de bain, pratiquement, très peu en évier.
Ouais, en évier, évidemment.
Eh bien, produisons l'eau chaude. Là où on la consomme, on aura déjà un chemin d'eau chaude beaucoup plus court. Et puis, alors, il y a des solutions très intéressantes. Je voudrais mettre l'accent sur une start-up française, Twido, qui vous propose trois ballons cylindriques, côte à côte, et quand vous puisez de l'eau chaude, eh bien, le seul premier ballon dans lequel vous avez puisé se remet en chauffe.
Ah,
et pas la totalité.
D'accord.
Alors que tout un chacun, on a des ballons de 200 litres, oui. 100 litres, vous lavez les mains, vous relancez le cycle de production d'eau chaude.
Oui, et puis, généralement, c'est à l'autre bout de la maison. Quoi.
Non, mais en général, enfin, la plupart du temps, c'est la nuit que ça se réchauffe, non, c'est pas en journée.
Ah bah ça dépend ce que vous avez consommé comme eau, ça dépend aussi.
Non, mais si on a 200 litres en se lavant les mains, ça va pas.
Oui, mais vous parlez là simplement du chauffe-eau électrique.
Oui.
Mais beaucoup ont un chauffage de l'eau
oui.
avec leur chaudière
oui, voilà.
qui va mettre
qui se met en route à chaque
stockage,
fois en fait, c'est ça.
Et donc on va être comme ça.
Gilles sur Direct Studio, oui. Question intéressante. Il habite dans un immeuble avec chauffage et eau collectif. Construit en RT 2012. Le temps d'attente, nous dit-il, pour obtenir l'eau chaude dans ma salle de bain est de l'ordre de 45 secondes à 1 minute, ce qui entraîne des surconsommations logiques importantes d'eau et de l'inconfort. Est-ce qu'il existe une règle d'attente maximum dans le neuf ou dans le chauffage collectif ?
Non, à ma connaissance, non. Il n'y a pas de norme sur le sujet. Mais d'où cette...
Parce que 45 secondes, vous vous rendez compte le temps perdu et puis l'eau consommée pour rien.
Oui,
parce que finalement on peut pas se doucher si l'eau est froide.
Je vais vous dire, chez moi en habitat individuel, j'ai plus d'une minute, je l'ai compté. Alors évidemment, pourquoi? Parce que très souvent, lorsque la
réserve d'eau chaude est loin, c'est ça.
Ben voilà, c'est-à-dire que en l'occurrence, c'est une chaudière qui fait également l'eau chaude sanitaire. Et il y a, je sais pas, 15 mètres de canalisation pour arriver à la salle de bain qui a été construite, qui a été certainement aménagée après la construction de la maison, et donc on avait au départ une salle de bain qui était proche de la une salle de douche qui était proche de la production et qui se retrouve à l'autre bout de la maison par rapport.
Et là il y a rien à faire.
Ah si, il y a justement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avoir un système comme celui que vient de décrire Hubert Maître, ou aussi on peut très bien ramener un petit chauffe-eau près de la salle de bain.
Oui, il existe des petits chauffe-eau.
Et il y a même des chauffe-eau instantanés. Alors là-dessus, le débat est un peu important parce que il faut, en revanche, là, il faut amener beaucoup d'énergie.
Oui, parce qu'il faut une résistance hyper puissante qui va chauffer l'eau quand elle passe dans le tuyau, c'est ça.
Et alors ça va avoir pour conséquence d'obliger d'avoir des conducteurs de forte section, jusqu'à 6 mm carrés, et ça va imposer souvent d'avoir un abonnement plus cher.
Ah oui, parce qu'il faut énormément de puissance d'un coup, et l'abonnement qu'on a...
Voilà.
Ne suffit pas toujours, c'est ça.
Eh oui.
Mais c'est efficace ou pas? Ça marche bien?
Bah, écoutez, en Angleterre, ils n'ont que ça.
Oui.
En Angleterre, ils n'ont que ça.
Eh oui.
Nos amis anglais.
Oui. C'est très bizarre les installations anglaises. Vous savez qu'il y a beaucoup de maisons encore qui sont alimentées en eau par gravité, c'est-à-dire qu'ont une réserve d'eau.
Oui. On le voit d'ailleurs dans certaines séries ou dans de documentaires.
Voilà. C'est assez surprenant.
Ils ont des petits châteaux d'eau, quoi.
Ouais,
en fait. C'est ça.
Hein. En termes de confort et notamment en termes de robinetterie, d'équipement aussi, on a parlé de douche à l'italienne tout à l'heure. C'est quoi la tendance? Parce que la douche à l'italienne, même je ne cesse de répéter que faut que ça soit vraiment très bien fait pour pas avoir de problème d'étanchéité. La tendance à la veille d'Idéo Bain là, qui va se tenir à Villepinte dans quelques jours, c'est quoi?
Alors, quand on parle de douche à l'italienne, on pense toujours à du carrelage, mais les fabricants ont depuis, et notamment à cause de l'accessibilité et du ressaut inférieur ou égal à 2 cm pour rentrer dans sa douche, on a développé des receveurs ultra plats, et la tendance de fond, vous allez voir sur Idéo Bain, ce sont de très très grands receveurs, jusqu'à 1m80, et des solutions très rigides, voire pour certaines, légères à la fois.
D'accord. Vos questions sur la salle de bain, sur l'eau chaude, c'est le moment ou jamais avec notre invité. On revient dans un instant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 8h moins le quart, le retour du week-end des experts, c'est la maison avec Christian Pessé, notre invité Hubert Maître, qui est secrétaire général de l'AFISB, l'association des industriels de la salle de bain. Et on évoque évidemment cette pièce que l'on choisit, qu'on aime bien, hein, c'est vrai, une bonne douche. C'est important, hein, une belle salle de bain, bien confortable et bien moderne.
C'est devenu une pièce à vivre,
bien évidemment,
quasiment à part entière. Hein. On va parler quand même d'un élément complémentaire qui souvent est dans la salle de bain, et puis parfois quand même qui en est séparé, les WC. Alors bon, c'est pas très sexy, mais c'est quand même très, très utile.
C'est obligatoire.
Voilà. Alors, quel conseil ? Bah, d'abord, peut-être pour économiser l'eau avec les doubles fonctions, enfin, les doubles commandes. Comment ça marche, ça, déjà ?
Bien. Alors, c'est un système simple, hein, de double chasse, petite chasse, grande chasse, pour des raisons évidentes. Ce qu'on peut dire, c'est que si on veut économiser l'eau, le parc français dans son ensemble n'est peut-être pas encore à 3 litres 6 litres, qui est la norme en France.
Donc, 3 litres
petite chasse,
6 litres besoin, chasse.
Et 6 litres, voilà.
Alors moi, je vais vous donner une combine pour si on veut pas changer sa chasse d'eau et si le réservoir est suffisamment. La brique. Oui, la brique, c'est possible, non ? D'ailleurs, on met une brique, le volume de la brique prend sur le volume d'eau.
Oui, donc on mettra moins d'eau dans le réservoir.
C'est possible.
Vous avez évoqué la photo, je vais vous parler du film. La cuvette est dessinée, hein, on parle de cuvette des années 70, pour absorber 9 litres, voire plus, 12 litres. Et donc, vous avez un grand bol, vous avez un siphon qui est adapté. Si vous mettez moins d'eau dans ce bol-là...
Il y aura moins de puissance.
Vous allez avoir moins bonne évacuation. Il y a des chances que vous tirez la chasse deux fois.
D'accord.
Et donc, c'est pire. C'est pire.
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les... Bon, bah, d'accord. Donc, il faut que je remette
enlever la brique.
Mais ça ne coûte pas très cher remplacer
un mécanisme. Mais si on admet que les économies d'eau sont importantes collectivement pour un pays, on ne parle que de l'énergie. Il faut parler de l'eau. On vient de vivre une sécheresse pendant plusieurs mois.
Oui.
On voit bien dans certaines régions à quel point c'est crucial. Donc, il est temps déjà de mettre le parc à jour. On le fait pour les chaudières, on le fait pour tout, et pas pour l'eau.
Dernière question.
Oui. Dernière question. les WC l'avant, si j'ose dire, c'est-à-dire les WC qu'on dit japonais. Alors
avec les petits jets d'eau.
Oui, ça prend en France. Remplace le bidet progressivement.
C'est des croissances à deux chiffres. Ben, le bidet, on l'a un peu oublié. Donc, on redécouvre le plaisir de l'hygiène, d'utiliser moins de papier et partant, sans doute moins d'eau aussi dans les réseaux.
Tout ça, c'est très culturel. Hein. On sait que les Japonais adorent ça.
C'est une invention suisse européenne. Les Japonais ont adopté jusqu'à équiper 70% de leur parc. Ouais. Après, chaque pays le voit, mais partout en Europe, c'est une croissance à deux chiffres, parce qu'une fois qu'on l'a essayé, on l'adopte. Il y a une offre qui s'élargit aujourd'hui, avec des produits plus abordables.
Oui, parce que ça coûte une fortune quand même.
Mais non.
Non, ça coûte combien ?
Mais ça commence à 1 600 €. Mais c'est un service au quotidien pour toute une famille.
Bah, c'est pas donné, quoi. 1 600 €, c'est une somme, quand même.
Non, c'est vrai. Mais c'est un vrai service.
Après, il y a aussi l'association de la petite douchette à côté des WC. Hein,
Alors ça, c'est les installations un petit peu comme au Moyen-Orient, plus traditionnelles, les pays du Sud.
Qui sont peut-être moins onéreuses aussi.
Oui, mais il y a aussi...
C'est moins confort.
Il y a aussi des cuvettes lavantes où il y a simplement un robinet thermostatique à l'intérieur sans connexion électrique. Et là, on est autour de 1 000 € hors taxe.
Bon, vous me la faites à 1 000 €. Très bien.
Parfait. Ouais, mais si c'est pas réchauffé, ça fait froid, hein, le petit jet d'eau. Non, moi qui suis frileux,
Bah, le thermostatique permet d'avoir de l'eau chaude.
Voilà. Très bien. Alors là, voilà, je suis rassuré.
Évidemment, si vous attendez 45 secondes l'arrivée de l'eau chaude,
là, pendant 45 secondes, on a un petit souci.
On a un peu tétanisé. L'eau froide est bonne.
Alors, pour les pros, hein, Ideo Bain, dans quelques jours, ça commence quand, Ideo Bain?
Du 4 au 8 novembre, voilà. Le grand rendez-vous du bâtiment et de la salle de bain.
Jérôme, merci beaucoup.
Merci.
Jérôme est avec nous au 32-16. Bonjour, Jérôme.
Bonjour.
Bonjour, Jérôme.
Bienvenue, Jérôme. On vous écoute.
Alors, j'ai un projet de mise en place d'une piscine avec une coque au printemps prochain. Quand je consulte différents professionnels pour me faire les plages, tous me disent qu'il faut faire une ceinture en béton autour de la piscine et pour cette pisciniste à me la mettre en place. Quand je le demande au pisciniste, lui me dit ce n'est pas moi qui vais vous faire la ceinture, c'est effectivement aux gens qui vont mettre la plage en place à vous la faire.
Et ben changer...
Pour chacun se renvoie la balle.
Voilà. Changer de pisciniste, parce que le pisciniste qui fait partout, moi je comprends pas très bien. Hein, le pisciniste, normalement, il vous met la coque, il fait le ceinturage, il vous fait la plage.
Il vous livre la piscine
en
fait.
En plus, avec à qui vous vous adresserez en cas de problème et de jeu de la décennale?
D'accord. Voilà, c'est ça mon problème. C'est que je renvoie la balle et j'ai bien compris.
Non, il vous faut un interlocuteur unique qui prend la responsabilité de la décennale. Il vous faut une dommage ouvrage, une assurance dommage ouvrage. Il n'y a pas que pour la maison. Comme la piscine est soumise aux contraintes de la garantie décennale, trouvez un bon pisciniste qui vous fait les deux. Il n'y a aucune raison que vous en ayez un. Alors qu'est-ce qu'il vous ferait le second? Il vous me donnerait simplement la pompe, les équipements. Non, ça. Le chauffage de l'eau, non, ça va pas. Ça.
Le pisciniste me ferait juste effectivement mettrait la coque et après tout ce qui est équipement. Et après voilà, c'est un autre intervenant qui me ferait les plages.
Essayez d'obtenir quelqu'un qui vous groupe les deux parce que sinon vous serez empoisonné lorsque vous aurez un problème de décennale ensuite. Il faut absolument être sérieux.
Oui. Piscine, ça aussi, c'est un. Piscine. On fait pas ça à la légère. Hein. Faut bien choisir l'entrepreneur, etc. Ah, c'est très compliqué la piscine.
Oui, c'est compliqué parce que vous voyez, par exemple là, on parle d'un problème de coque polyester. C'est une des solutions les plus simples pour faire ça. Mais aujourd'hui, avec les problèmes climatiques, d'un seul coup, on a d'un seul coup des pluies, notamment dans le midi, qui sont extrêmement importantes. On peut avoir des remontées de nappes phréatiques.
Qui font soulever la coque.
Si c'est pas bien fait, si votre piscine, par exemple, en hivernage, elle n'est pas remplie complètement, vous pouvez très bien avoir la piscine qui. Ploup, comme un bouchon de champagne.
C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit pleine, pour que justement elle soit lestée.
Il faut toujours laisser la piscine pleine ou quasi pleine.
Merci beaucoup, Jérôme. Christian, on va terminer par votre coup de gueule, et c'est un sacré coup de gueule.
Oui, c'est un sacré coup de gueule parce que l'Agence nationale de l'habitat, autrement dit l'ANA, a annoncé cette semaine, et bien brutalement, l'abaissement du plafond des dépenses qui pouvaient être subventionnables au titre du programme Habiter mieux, Agilité, pour lequel l'Agence nationale de l'habitat a fait beaucoup de publicité. Alors, c'est un programme, vous savez, qui bénéficie surtout aux ménages modestes pour la rénovation énergétique de leur logement et principalement le remplacement des vieilles chaudières fuel. Alors, on nous a fait beaucoup de battages sur la chaudière à 1 euro. Eh bien, pratiquement, le remplacement de la chaudière à 1 euro, pratiquement, du coup, c'est terminé. On peut considérer que jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura plus du tout de subventionnement. Alors, j'ai largement dénoncé ces dernières semaines les arnaques qui pouvaient exister. Et c'est au prétexte des arnaques que l'ANA annonce cette réduction.
Quel type d'arnaque, Christian, pour nous rafraîchir la mémoire?
Les arnaques, c'est des travaux un peu bâclés, c'est un surcoût en profitant de l'effet d'aubaine.
Non justifié.
Donc, l'ANA dit attention, moi je suis en train de subventionner les marges d'un certain nombre d'entreprises, donc j'arrête de subventionner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé dans certains cas de 20 000 euros d'aide potentielle à 8 000 euros d'aide potentielle. Vous vous rendez compte, c'est plus de la moitié qui, y compris sur des dossiers en cours. Alors, pour justifier cette mesure, eh bien, la directrice de l'ANA a déclaré avoir constaté une inflation extrême et importante des prix des matériels en raison du cumul des aides publiques. Bon, c'est à voir. Les victimes, ça va être qui? Ça va être les ménages les plus défavorisés, encore une fois, mais aussi les industriels et les entreprises convenables, parce que globalement, elles sont honnêtes, qui avaient été engagées par le gouvernement à faire des efforts justement dans ce domaine. on leur coupe les pattes, quoi. Je veux dire, tout simplement, à quelques mois de l'arrivée d'un système de subvention directe par prime, et qui va être chargé de ces primes? Précisément l'ANA. Alors ça permet, il y a quand même des doutes là. Mmh. On se demande comment l'ANA va être capable, alors qu'elle n'est pas capable justement de finir un programme qu'elle a elle-même initié, comment l'ANA va être capable là d'avoir la totalité du système de subventionnement de la rénovation énergétique à sa charge. Voilà, et je trouve que c'est pas bien.
Christian, merci pour ce coup de gueule très clair. Nous retrouverons bien sûr la semaine prochaine.
Oui, bien sûr.
On sera
d'habitude.
Là, entre 7h et 8h pour la maison. Regardez, il est concentré, il a le regard frais, droit.
Il est comme le lait.
C'est Christian.
Je l'ai concentré, non.
Rekia.
Oui, Christian Pessé, ministre de la qualité de l'habitat. Il nous fait des émissions concrètes, pratiques. La salle de bain, bien, il faudrait en refaire encore 2, 3, 4, 5 heures, tellement c'est complexe et superbe. Christian. Les gens ne passent pas suffisamment de temps dans la salle de bain.
Ah bon, il faut
J'aimerais que les gens soient plus propres.
C'est vrai.
Utilisent plus de
savon. Mais on nous dit que faire trop de douches, c'est pas bon.
Non, mais il ne s'agit pas de faire trop de douches, il s'agit déjà
ça
de se doucher.
Pas, non.
Il s'agit déjà
c'est
de
se doucher.
Il faut se doucher combien de fois par jour?
Une fois déjà.
Une fois, c'est bien.
Si possible, avant
d'accord.
de se coucher.
Mais c'est vrai que quand on se douche trop, pas bien.
Oui. C'est surtout la qualité des cosmétiques.
Et oui, bien sûr, les savons.
Mais déjà, douchez-vous.
Il faudra qu'on fasse une émission sur les savons, Christian. C'est intéressant, ça.
Il y a pas plus mal à dire sur les savons que sur certains aliments.
Christian, justement, les aliments, on va parler du Nutri-Score.
Oh oui, je vais pouvoir me lâcher.
Voilà, rouge, jaune, orange, vert. Ah là 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 là. On mange plus avec le Nutri-Score. Vous avez remarqué?
Oui, c'est ça. Je vais finir par maigrir.
Ah, ça c'est... Bah écoutez, oui, pourquoi pas.
Hein, quel bonheur.
Attention, là on s'échappe, on s'égare. La météo, les infos, et on est de retour pour la santé avec Christian Rekia. À tout de suite.